appelle la visite curieuse et secrète aux relations véritables des choses inouïes se passant dans la mer et ses abysses. Et c'est un texte que j'ai écrit suite à une résidence de un an et demi, à Océanopolis en 2013 et au Muséum d'histoire naturelle, avec les scientifiques d'Océanopolis, au sein de l'équipe scientifique d'Océanopolis et au Muséum d'histoire naturelle. J'ai eu la chance d'avoir Gilles Boeuf, qui était alors président du Muséum d'histoire naturelle, comme guide. Et c'était la première fois que j'écrivais ces décoseries. Ce texte s'appelle Décoseries, un texte qui parlait d'environnement et de biodiversité. Ce texte commence par les manchots, c'est un point de départ. Il va se distordre au fur et à mesure, et de la même manière, je vais m'amuser avec les paradoxes, de la même manière qu'on prend un manchot pour un pingouin, sur l'océan pour découvrir, après une phase de découverte, d'exploration, parfois aussi un peu d'utilitarisme de l'océan, découvrir qu'en fait l'océan, au fur et à mesure, l'océan n'est pas si distant ou face à face à nous. Nous portons notre propre océan intérieur. Vous savez que vous avez 45 litres d'eau salée dans votre corps, ce qui fait de vous des poissons inversés d'une certaine manière, puisque vous portez une eau saumâtre qui plus est, une eau de mer divisée par trois à l'intérieur de vos corps depuis l'époque où vos ancêtres l'ont intériorisée pour pouvoir marcher sur la terre ferme. Et comment est-ce qu'on découvre son poisson intérieur? C'est effectivement l'objet de ce texte-là qui commence par un manchot. Mais au début, je vais vous choquer, c'était la première fois que je travaillais avec des scientifiques, c'était déjà quelque chose, et ça va voir avec ce qu'on dit depuis deux jours, c'était une commande réunie du Quartz, dirigée alors par Mathieu Banvillet et d'Océanopolis. Donc il y avait un théâtre et un centre de culture technique et scientifique qui proposaient qu'on réalise in situ, suite à une résidence, un spectacle dans cet endroit. Depuis ce spectacle, ça fait 10 ans qu'on le tourne, on le joue dans les théâtres, dans des musées d'histoire naturelle, on le joue un peu partout. Et moi, au début, j'y connaissais rien à l'environnement, et je dois vous le confesser, je n'en avais pas grand-chose à faire. On est en 2012-2013, je dois le dire, c'est pas que j'en avais pas, c'est que je ne connaissais pas ça, je le connaissais comme tout le monde, mais ce n'était pas du tout une spécialité, je ne suis pas scientifique. Et donc, au début, quand on me propose de mettre à Océanopolis, les scientifiques et moi, on se regarde un peu en champagne. Je précise que depuis, ce sont devenus des amis et que je suis associé à Océanopolis, donc tout ce que je vais dire parfois qui va vous sembler un peu cruel n'est qu'affectif. Et au début, il me dit, un auteur de théâtre qui débarque, qu'est-ce qu'on va lui donner? Je dis, non mais racontez-moi des histoires. Et c'est... Alors, on me donne des livres pour enfants, on me met dans un bureau, on ne sait pas trop quoi me faire, on ne sait pas trop non plus quelles questions poser. En fait, ça commence très très mal. Et je me dis, j'en ai pour un an et demi à lire des livres sur Flipper le dauphin, etc. J'exagère vraiment parce que mais au début, je ne savais pas trop. C'était pareil, je veux dire, on ne savait pas. Moi, au début, je ne savais pas comment je travaillais. C'était encore nouveau, ces relations art-science. Et du coup, Céline Liret, la directrice scientifique de Anopolis, a un jour l'idée extraordinaire assez vite. Je ne vais pas romancer ça au bout d'une semaine, me voyant dépérir. Elle me dit, t'as qu'à aller nourrir les animaux. À Anopolis, il y a des loutres, il y a des phoques, mais surtout, il y a une manchotière, cette fameuse manchotière avec des manchots. Moi, j'aime beaucoup les manchots, j'ai toujours trouvé cet animal, cet oiseau qui nage, cet animal hybride extrêmement fascinant, mais je le connais très peu, donc me voilà parti avec les soigneurs dans la manchotière. C'était bien avant que Jean-Michel Blanquer y pénètre. Et j'ai un petit saut de macro, je suis très ému. Dans les manchotières, il y a trois, vous devez tous connaître Océanopolis, il y a trois espèces de manchots, les petits manchots papous qui sont très sympas. Les manchots gorfous qui sont encore plus petits, qui ont des cils un peu, qui sont très agressifs, il ne faut pas trop s'en approcher. Et les majestueux manchots royaux, qui sont ces manchots qui vivent en Antarctique. Ce qui veut dire qu'il y en a très peu en Europe, il faut que la manchotière soit très froide, elle est à 4-5 degrés. Et donc, mais eux, ils sont très loin. Et les soigneuses, Christine me dit, la chef des soigneuses, bon, va nourrir les manchots papous, ils sont sympas, mais fais attention, t'approches pas trop d'eux, je m'accroupis, je commence à nourrir des manchots, on leur demande des poissons, je suis extrêmement bouleversé. On a rarement l'occasion de nourrir des manchots. Et tout absorbé par ma contemplation, je ne réalise pas ce qui est en train de se passer à côté de moi. Et je sens très rapidement une masse considérable se frotter à mon épaule. Je tourne la tête et là, je vois un énorme manchot royal qui semble comme me câliner. Un peu effrayé, c'est une bête qui mesure 90 cm au repos, qui a un bec extrêmement pointu. Je me lève, mais je suis très ému et très heureux. Et là, je regarde Christine qui me regarde et qui me dit « Ne t'inquiète pas, c'est Dominique. » Mais il a l'air de bien t'aimer, c'est chiant, je vais te demander de sortir. Alors, je ne comprends rien, et je sors de la manchotière, Dominique me court après en poussant des cris déchirants. Je suis très ému, mais je vous garantis que c'est vrai, j'étais extrêmement ému, j'étais chamboulé complètement, la grille se referme, il me regarde derrière la grille, il reste là hébété, moi aussi, je vais faire dans la patte de voir, et on me fait remonter, on m'exfiltre de la manchotière. Je file chez Céline Liré, la directrice scientifique, et je lui dis, écoute, il m'arrive un truc incroyable, je viens de rencontrer un manchot qui s'appelle Dominique. Elle me répond, oui, c'est un manchot qui se prend pour un homme. Je lui réponds et dire qu'en plus, tous les visiteurs l'appellent un pingouin. Et là, je me suis dit qu'il y avait une matière extraordinaire pour commencer mon histoire. Ce que je veux dire en racontant cette histoire, et ça a lien avec ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, mon intérêt de l'environnement, le fait que je me suis senti absorbé ensuite par ces thématiques, est venu d'une rencontre. Donc de quelque chose de très concret. Parce que la meilleure façon de parler de l'environnement, c'est bien évidemment le concret. L'environnement, c'est ce dans quoi nous vivons, avec lequel nous entrons en interaction, nous lui devons la forme de nos corps. Un manchot, l'ancêtre du manchot, c'est parce qu'il est... Il s'est adapté à l'océan qu'il est devenu comme un poisson. Alors nous sentons tout ce que nous devons à l'environnement, dans ce que nous sommes et dans notre apparence. Alors c'est concret, autrement dit, c'est venu par les affects. Et ça, ça me semble extrêmement important. Que pour moi et pour les artistes, ça rejoint un peu ce qu'on disait, depuis j'ai fait énormément de spectacles sur l'environnement, mais c'est d'abord venu, Plotin dit, le philosophe, tout désir est un désir de connaître. Et comme je le dis là, dans cet extrait, chercher à connaître, c'est chercher à aimer. Et je pense que c'est venu, ça doit venir, par quelque chose de concret, par un affect et certainement par un amour. Et ce manchot a tenu ce rôle-là.
La visite curieuse et secrète aux relations véritables des choses inouïes se passe entre la mer et ses abysses. Ça, c'est le titre. Qu'est-ce que c'est que ce titre ?
C'est pas un titre à rallonge.
J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce titre ?
Parce que sur ces titres ou les phrases que je peux employer, toutes les causes ont des titres un peu longs, enfin les dernières beaucoup moins, ça montre aussi tout le processus qui est le processus de l'écriture. C'est-à-dire qu'au début, quand on me commande souvent des textes. Alors, je travaille avec Océanopolis, je travaille avec des scientifiques, j'ai travaillé avec l'Andra aussi pour le sale discours au début. Je suis parti sur le pourquoi pas vers les premières. Au début, on me commande des textes. Et ce qui est important, c'est que surtout, je ne dois pas le savoir. Je ne dois pas avoir d'idée préconçue sur le sujet que je vais explorer. Parce que le but, encore une fois, pour un artiste, j'entendais hier, on parlait de la relation entre science et art. Je pense qu'artistes et scientifiques ont des rôles totalement complémentaires, mais absolument pas superposables, et ça c'est une très bonne nouvelle. Un scientifique, son objet, il y en a dans la salle, ils pourront me contredire s'ils ne sont pas d'accord, c'est le savoir. Moi, le savoir, mon travail, c'est pas du tout de vulgariser un savoir ou de transmettre une culture scientifique. Je ne peux pas vulgariser un savoir scientifique, d'abord parce que je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas vulgariser un savoir que je ne possède pas. Moi, c'est de partager l'émerveillement que j'ai eu à recevoir ce savoir. Et c'est ainsi que je dois être un non-sachant avant de commencer l'écriture, pour la bonne raison que pendant tout le spectacle, je vais essayer de partager ou le livre avec des spectateurs qui ne savent pas comme moi, comme j'étais au début, l'émerveillement que j'ai eu à découvrir ces choses-là. La science, mais il n'y a pas que de la science, il y a beaucoup d'histoire, il y a de la théologie, il y a de la médecine, il y a un peu tout ce domaine de sciences humaines, de sciences dures dans ces causeries qui me servent à élaborer. Voilà une architecture pour que surgisse une révélation, pour que je me laisse aller à quelque chose, que je ne donne pas de réponse non plus, en tout cas pas celle qu'on attend d'un sujet pareil, il y en a une, pour que cette chose-là, en fait, pour que ce qui ressorte de ça, c'est un émerveillement que j'ai envie de partager, un affect que j'ai envie de partager, et de faire aimer ce que j'ai aimé, le partager en fait. C'est pas du tout une manipulation. Et donc ça, c'est important pour moi, c'est que, pour moi, je ne suis pas du tout dans... Quand je travaille avec des scientifiques, on est vraiment... Il y a un comité scientifique qui vérifie tout ce que je raconte au niveau factuel, mais après, il faut se mettre d'accord. Bon, il y a toute une période très compliquée d'écriture pour se mettre d'accord sur les formulations, pour rester dans le vrai, mais aussi pas faire des analogies poétiques, et surtout de transmettre un émerveillement, transmettre un affect, ce qu'on disait un peu avec Philippe Grand-Collat tout à l'heure, transmettre, en fait, l'émotion qu'on a au savoir. Et comment est-ce que le savoir n'est pas quelque chose, c'est le résultat pour nous, c'est comment est-ce que ça peut devenir des briques d'inspiration qui construisent peu à peu un récit. Et comment est-ce qu'on le rend magique et aimant.
Et justement, Philippe Grand-Collat, tout à l'heure, dans sa conférence, je me permets de le dire ainsi, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une intention, lui, de sa part, de nous émerveiller avec autre chose, avec des ordres de grandeur, avec des contrastes, avec des formes, avec des chiffres, qui devaient aussi nous surprendre. Sans doute, moi, je sais que dès l'instant où on met les choses en récit, on a des surprises et on construit des récits qui peuvent nous émerveiller. Avant d'être recteur, bien avant, j'étais président de l'université, et il se trouve, effectivement, j'appartiens au domaine des sciences sociales, et une université, une vraie université, c'est toutes les facultés rassemblées, y compris les sciences et les sciences dures. Mmh. Et nous avions à Avignon, sans doute, le plus gros investissement qui soit en termes de recherche. Et dans ces cas-là, il faut vraiment sensibiliser. On sent bien qu'il y a une intention pour sensibiliser le président qui vient des sciences humaines à quelque chose. Il a tout autre investissement que ce qu'il connaît avec ses ordinateurs, ses crayons ou autres. Le gros investissement. Chez nous, à Avignon, le gros investissement, c'était le laboratoire à bas bruit de Ruisserel. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le laboratoire à bas bruit de Ruisserel. C'est l'ancien plateau d'Avignon que les scientifiques ont exploré parce que c'est un endroit où on s'enfonce dans le sol. Et avec des petits chariots, on a la sensation d'être un peu dans un James Bond. Vous savez, vous arrivez là, on voit que le terrain est pas ancien, un terrain militaire, vous rentrez sur des petites voiturettes, les unes derrière les autres. Et on fait des mètres, des mètres, des mètres, et on s'enfonce, et on s'enfonce, et on vous explique que c'est l'endroit où on arrive à entendre le bruit de l'autre côté de la planète, de l'océan et des failles qui peuvent exister. On vous prépare, on vous met en situation, et on se dit que vous, monsieur le président, vous allez devoir négocier les futurs investissements, et puis on arrive, on arrive, on arrive, et on arrive tout au fond. Je ne sais pas si Damien Malinas, qui était peut-être avec moi, s'en souvient. Et je pense que ça a fait là aussi un petit contraste pour moi. Il y avait là des tas de chercheurs, des informaticiens qui essaient de voir comment les composantes résistent. Et puis, tout au fond, une dame qui s'appelle Huguette, une chercheuse en biologie et en recherche sur les plantes, que je trouve derrière une porte énorme qu'il fallait déverrouiller. On déverrouille la porte comme dans un film, un truc incroyable. On a l'impression que c'est un coffre, non ? Ouvre la porte et je vois Huguette face à un pot de fleurs. Ça fait un choc. Et je me dis, Huguette, en fait, qu'est-ce que vous faites ? Elle me dit, je travaille sur la communication entre les plantes et je voulais chercher un endroit tranquille. Alors, en effet, elle voit quand même mon étonnement et commence à m'expliquer que, bien entendu, la pollution affecte les plantes vertes et qu'on se rend compte que lorsqu'on est au bord des autoroutes, les plantes vertes, l'herbe, se dotent de processus de défense et que ces processus de défense, pour les protéger des antioxydants notamment, et bien on les retrouve 3 km plus loin, c'est-à-dire dans des endroits où elles n'ont pas besoin de se défendre. Et donc, peut-être, il y a des processus de communication entre les plantes et des messages qui circulent. Là, je suis nettement plus convaincu. Et puis, elle commence à me parler des idées. Alors, je dois vous donner une petite confidence. Elle va juste dire, il faut vraiment vous intéresser aux plantes. Je dois vraiment vous dire que la communication entre les plantes, c'est quelque chose de très important parce que c'est aussi une communication avec le spirituel. Je dis, mais pourquoi ? Et là, elle me dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous qui êtes sociologue, mais dans tous les endroits du monde, il y a des plantes un tout petit peu différentes. Et les plantes, moi qui viens du Brésil, j'ai fait une partie de mes études au Brésil, quand on les consomme d'une autre manière, ça vous amène à des états particuliers. Et je vous assure que si vous mettez en relation la description de Dieu sur certains territoires avec les plantes qu'on consomme autrement, eh bien vous aurez peut-être des réponses sur les différentes manières d'envisager Dieu et la spiritualité. Huguette, ça va être difficile à financer ce type de recherche. Je dis, mais je pense que ce serait quand même utile, peut-être qu'on peut le faire en... Tout ça pour dire qu'au fond, et la différence de tout ce que tu nous as dit tout à l'heure en lisant ce texte, c'est que je voyais bien qu'il y avait chez elle un choix de rapidité à me donner aussi du récit, y compris, encore une fois, pour m'émerveiller, moi, et me dire, au fond, et c'est ce que je fais aujourd'hui, je deviens porteur de son propre récit. Quelle différence il y a sur ce travail d'émerveillement que tu tentes de faire en construisant des récits qui traversent l'ensemble de tes textes par rapport à ce que serait le travail, peut-être, d'un scientifique ou d'un conférencier?
Moi, je ne sais rien sans les scientifiques, je ne travaille qu'avec eux parce que parce qu'ils nourrissent. Et donc, c'est chez eux que je cherche, par eux que je cherche à faire naître mon émerveillement. Donc, leur travail me féconde, me fait rêver. Alors, j'ai besoin d'eux. Mais après, c'est un vrai travail de longue haleine. Par exemple, encore une fois, ce qui me fascine, c'est les mises en relation qu'on peut faire avec tous ces savoirs-là. Et qu'est-ce que ça dit de nous? Et qu'est-ce que ça éveille en nous? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte, par exemple, quand je parle à Laurent Chauveau, qu'on connaît bien en Bretagne, hein, sur ses coquilles Saint-Jacques et qui peut lire ses rainures? Ce qui m'intéresse, c'est que je me dis, ah bon, le monde qui a façonné ces coquilles de coquillages, en fait, peut se lire dans le corps de ces coquillages. Du coup, moi, qu'est-ce que je peux lire dans mon corps? Comment est-ce que... En fait, à chaque fois, c'est des espaces médiumniques, en fait, de connaissance de soi et des autres, et ça change la perception qu'on peut avoir du monde qui nous entoure. Et je trouve que ça, c'est vraiment... Pour moi, la science, en tout cas en tant qu'auteur, c'est une façon de se convertir, c'est-à-dire de voir autrement, de tourner la tête. Et quand on travaille avec des scientifiques qui ont conscience de ça, je trouve que c'est extraordinairement... Moi, les textes que j'écris, ils n'ont pas encore une fois du tout pour but, même si ça véhicule un savoir qu'on a transmis, après je l'interprète, bien évidemment. Donc je ne suis pas un scientifique, je n'ai absolument jamais fait d'études scientifiques, mais même si tout est vérifié. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant de véhiculer un savoir en vérité que de savoir, que de montrer ce qu'il m'a permis de découvrir et comment est-ce que mon regard a été transformé par ça. Et c'est un très beau travail avec les scientifiques, je trouve, de faire ça. Parce que ça peut devenir des muses, en fait. Mais c'est vrai. Hein, je sais pas. Et pourquoi le théâtre? Et pourquoi l'importance des mots pour parler de ces sujets-là? Je vais peut-être vous raconter une histoire qui va être courte, je ne vais pas être trop long, mais une histoire vraiment merveilleuse. Il y a 2 ans, l'ADM et le 104 m'ont commandé un texte qui devait s'écrire pour un film, un petit court-métrage que j'ai réalisé, qui devait se réaliser suite à une méthodologie que je n'avais jamais encore essayée, une méthodologie rapide. Moi, je me prends beaucoup de temps pour écrire, je n'aime pas du tout me presser pour ça. Et je devais passer 3 jours avec Christian Clot, un explorateur scientifique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet homme qui est très fascinant. Christian Clot, c'est quelqu'un qui va dans des territoires au climat extrême. C'est un scientifique et qui analyse l'impact physiologique qu'ont ces climats extrêmes sur les corps des habitants qui y vivent, ou parfois des habitants qui ne peuvent pas y vivre, comme l'Antarctique ou le désert de Gobi. Et donc, il va dans des climats comme ça, le désert de Gobi, la forêt amazonienne, la Patagonie. Et donc, on devait se parler. Suite à cette conversation, j'avais 3 jours pour écrire un texte. Et la conversation qu'on avait avec Christian Clot, c'était l'adaptation au territoire. Comment est-ce qu'on se relie à un territoire et à un environnement? Alors, les rôles étaient inversés, j'étais beaucoup plus à la place du scientifique que lui, puisque je disais, bah oui, c'est extraordinaire, en fait, c'est le corps, c'est la nature, c'est la physiologie, c'est l'évolution qui nous permet, je lui donnais des exemples, je disais, moi, ce qui me fascine, c'est les Indiens Bajau, par exemple, hein, qui, suite à une adaptation sélective, vivent toujours aux Philippines, c'est un peuple de plongeurs, et en 1000 ans, peut-être même un peu moins, avec aussi une grosse pression, avec un fort taux de mortalité, leur corps, leur physiologie s'est peu à peu adaptée à l'environnement marin, et ce sont des plongeurs qui peuvent rester en apnée 11 minutes, hein, quand un morse ne peut que 9 minutes. Les Inuits, par exemple, aussi, l'interaction avec l'environnement est très forte, ce sont quand même des humains qui se nourrissent essentiellement de protéines animales, pas de légumes, pas de fruits, pas de sucre, pas d'alcool. Et qui se sont très bien adaptés. Et donc je disais ça, je disais oui, la nature c'est extraordinaire, mais non, mais pas seulement. Ça c'est qu'une partie de la chose. L'adaptation elle vient ensuite. Mais pourquoi ils ont laissé, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont eu le temps de s'adapter à leur territoire? Un homme, ça voyage, ça a des jambes. Ils sont arrivés dans des territoires terriblement difficiles. Pourquoi ils y sont restés d'abord? Pourquoi ils ont décidé de rester sur ce territoire? Je n'ai jamais pensé à cette question. J'étais fasciné par ce qu'il était en train de me dire. Et il se trouve que Christian Clot a étudié la réponse à cette question. Et la réponse est encore plus fascinante que tout ce qu'on pourrait imaginer de l'évolution. Il dit, bah, c'est parce que quand ils sont arrivés sur ce territoire, ils ont appris à s'y rattacher en l'aimant. Et comment un homme aime son territoire? En lui parlant, avec les mots. Et il m'a donné l'exemple d'une tribu qui n'existe presque plus malheureusement à notre époque, les Kaveskars, ou les Alakanis, qui vivent en Patagonie. Ils vivent dans un des territoires les plus horribles pour nous qu'on puisse imaginer. C'est le territoire le plus humide de la Terre. Il y pleut 99 jours sur 100. Il y fait une température moyenne de entre 5 et 10 degrés. Les arbres pourrissent sur place d'humidité. Et les Kaveskars, ils sont établis il y a des milliers d'années et ont vraiment été heureux sur ce territoire avant qu'on vienne les déloger. Et alors, bien sûr, si on étudie la physiologie humaine de ces Kaveskars, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu une adaptation physiologique, leur température corporelle s'est abaissée à 35 degrés. L'intelligence humaine aussi a fait ses preuves, ils se recouvrent le corps de graisse de phoque, c'est un très bon imperméabilisant, mais enfin, on s'aperçoit aussi d'autres choses. C'est que, vivant dans un environnement extrêmement pluvieux, ils ont 100 mots pour décrire la pluie. Ce qui pour nous n'est qu'une pluie, il y a pour eux la pluie qui mouille, la pluie froide, la pluie féconde, la pluie épaisse, la pluie fine. Et cette espèce de champ lexical multiplié des mots prouve qu'ils ont aimé, qu'ils se sont mis à aimer leur territoire, qu'ils ne sont pas rentrés en résistance par rapport à lui. Et en mettant des mots sur cette relation, comme les Inuits avec le blanc par exemple, hein, vous savez, ils ont 150 mots pour décrire le blanc, ce qui me paraît à nous extrêmement étonnant. Et ça veut dire qu'ils se sont mis à épouser leur territoire avec les mots. Et puisque le théâtre, puisque la littérature repose sur les mots, j'ose rêver, fantasmer que les récits peuvent jouer aussi, à leur échelle, peuvent jouer aussi sur cet amour, sur ce partage de l'amour que l'on peut avoir par rapport au sujet que l'on traite.
En t'écoutant lire ce texte tout à l'heure, et si j'en reprends le déroulé, je vois une constante par rapport à beaucoup de tes textes, celui de passer par un détour un peu accablant sur la cruauté. La cruauté, les monstres, qui peuplent aussi ton paysage littéraire, sont-ils pour toi nécessaires aussi pour renouer avec l'émerveillement et peut-être sur la nécessité de repasser par les mots et nommer une fonction du langage, car j'ai bien compris que ton manchot à toi ne s'appelle pas un manchot, il s'appelle Dominique. Est-ce que tous les manchots s'appellent Dominique?
En tout cas, il a un rôle d'ambassadeur. En tout cas, ça a été la porte d'entrée pour moi. Alors, il a une importance considérable.
Et cette cruauté, pourquoi?
Parce que c'est Théodore Monod, parlant de la nature, dit « Croyez-vous que la nature est une chose? Non, c'est horrible. Enfin, je veux dire, aucun animal dans la nature ne meurt de vieillesse. Il ne faut pas gommer. Nous sommes des... » La cruauté nous rattache, nous montre que nous sommes aussi des êtres rattachés à la nature. C'est très important de présenter, pour moi, ces variations-là. C'est plus honnête et c'est plus intéressant aussi. C'est de l'affect.
Et ce choix, c'est aussi sur cette... vocal qui a l'air de te préoccuper des monstres, pardon, d'autre chose, parce que je ne suis pas monstre et cruauté, mais le monstre. Tu souris.
Il y a deux étymologies pour le monstre. C'est des questions difficiles, mais j'aurais peur de que les réponses amoindrissent la force de ces questions. Le monstre, il y a deux étymologies. Il y a bien sûr le monstrum, c'est le montrer, mais il y a aussi le monestrum, on pense, le témoignage qui avertit. Le témoignage. Le monstre est un témoignage de quelque chose, je trouve que. À ce titre, il est une figure littéraire passionnante.
D'accord. Donc c'est aussi une incitation à peut-être changer notre regard sur les choses, et peut-être plus qu'une prise de conscience, on pourrait parler d'une reprise de conscience.
Oui, et puis surtout, encore une fois, je partage un émerveillement, le monstre m'émerveille, exactement, qu'est-ce qui a cette capacité de pouvoir changer, faire dévier un peu le regard à certains moments? Il faut quand même une variabilité. Oui, j'aime bien jouer avec ces effets d'échelle, les monstres. L'océan, par exemple, hein, quand on parle à l'océan, pour s'y intéresser, c'est un peu ce qu'on disait. On commence par les bactéries, on commence par les calamars géants, effectivement. Ça, c'est une bonne porte d'entrée aussi. Et après, les bactéries, on s'aperçoit que c'est tout aussi merveilleux que ça.
Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça, au fond, une préoccupation très, très puissante sur ce qu'on appelle aussi, pour le coup, l'éthologie, c'est-à-dire la manière dont on se comporte les uns aussi avec les autres? J'ai visité récemment un laboratoire d'éthologie consacré aux singes qui se trouve dans le Morbihan, dans un endroit un peu secret. Et assez fabuleux en réalité, parce que l'éthologue vous apprend des tas de choses, y compris par rapport à nos représentations. Et je ne pouvais pas ne pas lui demander à la fin de cette visite quels étaient ses singes préférés. Sa réponse a été « J'aime beaucoup les bonobos ». Pourquoi vous aimez les bonobos ? Il me répond parce que ce sont des singes réellement sociaux, contrairement aux chimpanzés. Les chimpanzés, cruellement, peuvent assassiner leurs petits, les dévorer même, qu'à les tuer, quand il y a des situations de conflit. Les bonobos, en situation de conflit, ont un comportement radicalement différent. Ils font l'amour avec tout le monde. Tout le monde devient partenaire sexuel. Tout le monde fait l'amour. Voilà. On sent un conflit, on s'aime. Contrairement au manchot, qui a l'air de te passionner parce que tu as dit quelque chose durant le déjeuner que je n'avais pas perçu, mais tu es un grand connaisseur. Visiblement, si les bonobos font l'amour avec tout le monde, le manchot, lui, fait preuve de fidélité. Et tu me disais cette phrase absolument inouïe. Tous les manchots, pour en venir à la mort, meurent d'amour.
Oui, un manchot, une fois qu'il a perdu son ou sa partenaire, ne peut absolument pas en trouver une autre. Et il meurt de tristesse et de solitude. Donc il meurt d'amour, c'est une très belle mort. Et c'est vrai que, vous voyez, on ne peut pas s'empêcher d'être un peu anthropomorphique, mais je pense que c'est le beau côté de l'anthropomorphisme, parce que c'est ce qui véhicule les affects, c'est ce qui fait qu'on peut se relier aux objets d'étude. Mais quand on arrive à regarder, un peu comme les bestiaires du Moyen-Âge, si vous voulez, quand on arrive vraiment à projeter de l'émotion et de la sensibilité sur ce qu'on regarde, encore une fois, j'ai cité Plotin tout à l'heure, c'est un philosophe que j'aime beaucoup. Plotin, pour lui, l'accomplissement de la sagesse, qui n'est pas atteignable, mais qui est peut-être désirable, c'est de devenir ce qu'on regarde, il écrit. Et je trouve que ça, c'est un processus spirituel. Il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Ce désir d'union avec ce qu'on regarde est important. Et effectivement, ce regard-là peut faire des miracles, je crois. Je crois que ça peut changer les choses. Notre cruauté, décrire notre cruauté pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi montrer qu'on est aussi capable d'une réconciliation. Et cette variation est assez étonnante. On parlait des solutions tout à l'heure. Enfin, pour moi, ça a à voir avec l'espérance, effectivement. Oui, un manchot meurt d'amour, il ne l'appellerait peut-être pas comme ça, mais c'est le cas. Et en tout cas, nous, ça nous évoque quelque chose qui nous... Ça nous rapproche de lui, non ? Ça nous fait le respecter. Je pense qu'on en fait moins du civet, si maintenant. Hein, ça sert un peu.
Est-ce qu'on en fait moins du civet, déjà, quand on lui donne un nom ? Cette faculté de donner des noms aux animaux est une chose un petit peu étrange, tout de même.
C'est très étrange.
En réalité.
C'est très étrange.
Pourquoi on n'adore pas plus cette fonction ? Pourquoi cette nécessité en plus de leur donner des prénoms ?
D'après la Bible, ils ont un nom, puisque c'est Adam qui nomme tous les animaux. Le nom d'espèce était auparavant un nom propre. Quand vous relisez la Genèse, par exemple, Dieu crée les animaux, les apporte à Adam pour qu'il leur donne un nom. Pas rien, ça. Et moi, on m'a dit, j'ai un contre-exemple, quand je voulais un aquarium quand j'étais petit. Et mes parents savaient désespérer de vouloir machin. Ils disaient, mais qui va s'en occuper ? Je suis sûr qu'il ne va jamais changer. Ça va être mieux encore. Ils m'ont dit, non, d'accord, un aquarium a une seule condition, tu participes à un club d'aquariologie, comme ça, tu apprendras aussi un peu quelque chose. Je suis inscrit au club d'aquariologie, je suis le seul enfant, c'est que des adultes. Et donc, j'ai mon aquarium quand même, et on m'offre, parce que c'est facilement des poissons qui se reproduisent facilement en aquarium, on offre un guppy, avec un mâle guppy, deux femelles guppy, parce que ça va se reproduire. Et comme le mâle guppy a une queue jaune, je nomme mes trois poissons, je l'appelle Soleil. J'arrive au club d'aquariologie, et on me dit alors, tu as des poissons ? Je dis oui, j'ai trois guppy. Ils s'appellent Soleil, Lune. Tu as donné un nom à tes poissons, ils vont mourir. C'est la tradition. Et ils sont morts. Très vite.
La vie légendrie de la mort de vos poissons.
J'ai pleuré beaucoup, mais le recul fait qu'on a plus de légèreté.
En écoutant les conférences, je n'ai pu m'empêcher de repenser à une question qu'on me pose quelquefois quand on est sociologue du cinéma. Quel est votre film préféré en tant que sociologue du cinéma ? Je réponds systématiquement, même si c'est faux. Mais c'est un peu vrai quand même. J'adore Les Dents de la Mer. Pourquoi j'ai Les Dents de la Mer ? Sans doute parce que il y a une scène qui reste dans ma mémoire comme la scène la plus belle du cinéma. Celle de la rencontre d'un policier qui n'aime pas l'océan, d'un marin qui se pense expert, tueur de requins, et d'un océanologue qui pense qu'il va comprendre la situation et la sauver. Tous les trois se retrouvent enfermés sur ce bateau, avec cette fameuse réplique, quand on voit la taille du requin, sans doute faudrait-il un bateau plus gros, la nuit. Et je pense que c'est une véritable beauté cinématographique que de voir que, au fur et à mesure qu'il y a des vagues, il y a cette lampe qui est suspendue et qui éclaire le visage de chacun, et chacun commence à se dire quel est le récit qu'on va se raconter. Le récit, c'est que chacun va montrer sa morsure de requin, disant voilà, moi c'est celle-ci, et chacun va sortir ses langues. Et donc, moi j'ai appelé ça l'exhibition des cicatrices. Au fond, ces hommes qui ont un savoir croisé sur une expérience commune, celle de l'animal, comment vont-ils se sortir de cette situation? Et je trouve ça toujours très intéressant d'imaginer qu'au fond, dans ce récit, ceux qui vont s'en sortir, c'est l'océanologue et le policier, et le vrai tueur de requin, lui, va mourir, dévoré par le requin. Je tiens à dire aussi que je trouve toujours très curieux ce récit, parce que ce qui va tuer le requin, c'est ce qui nous aide moins à survivre, puisqu'il meurt avec une bouteille à oxygène, celle qui nous permet de respirer dans l'eau qu'on lui fait exploser. J'aime beaucoup ce film. Vous comprenez maintenant pourquoi? Je pense qu'il faut toujours détailler les choses, parce que c'est un film que je trouve profondément méditatif sur, au fond, qui détient le bon savoir pour se sortir d'un mauvais pas, et d'un mauvais pas où je pense que l'intention de départ, celui du narrateur, celui du récit, est très étrange, c'est que ce qui génère la peur, puisque cet animal génère la peur, c'est qu'on lui prête quelque chose de terrible, une conscience. On pense que cet animal a une conscience et une stratégie. Est-ce que c'est quelque chose qui te traverse l'esprit d'imaginer cet anthropomorphisme-là, puisque on rend le requin anthropomorphe, le manchot un petit peu aussi. L'idée de l'univers qui nous entoure, c'est la thématique de beaucoup de films, hein, c'est celui aussi du film Phénomène de Shyamalan. Imaginez que la nature a une conscience qui peut jouer contre nous. Je ne crois pas. Mais il n'y a pas parce que j'aimerais le croire, ou j'aimerais pas le croire, ou je veux le croire, ou je ne veux pas le croire, ou parce que je pense ci, je pense ça. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Nagel, Thomas Nagel, qui a écrit un petit essai « Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris ?» C'est un peu vrai en ce moment, vous avez entendu aussi parler de cet homme fascinant qui cherche à vivre comme un chevreuil. On a toujours envie, quand on prête une conscience qui ressemblerait à la nôtre aux animaux, je ne dis pas que les animaux n'ont pas de conscience. Il y a toujours cette envie de pouvoir vivre une autre vie. Ou de se sentir moins seul aussi. Parce qu'on est écrasé par ce savoir que peut-être, en tout cas, nous sommes, sinon les seuls à avoir une conscience que nous ne pouvons pas forcément partager avec d'autres vivants qui en ont certainement d'autres formes. Et Thomas Nagel dit justement qu'on ne peut pas se mettre dans la tête de la chauve-souris. On pourra toujours la décrire, on pourra la rêver, mais ça s'arrêtera là. Et c'est la part la plus belle et mystérieuse, en fait, de l'existence, je trouve. C'est cette inviolabilité de l'intérieur des autres. Alors, ça nous fait fantasmer ou pas, mais ça restera un mystère, et c'est bien que ça reste un mystère. Parce que si on pense que déjà entre amis, on est énervé que les autres ne pensent pas comme soi, si tout le vivant se mettait à penser comme nous, on serait très déçu par lui. Ça serait assez terrible. Donc, c'est peut-être ça le côté sacré du vivant, c'est que nous pouvons connaître jusqu'à un certain point seulement. Ce qui laisse l'espace à la poésie et à la création. Par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui, est-ce que tu pourrais résumer auprès de notre public l'intention que tu mettais dans cet autre livre qui s'appelle « Le sale discours » ? Car pour nous, et au regard de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est évidemment un enjeu très grand, très important, que, voilà, d'imaginer ça, je dis d'autant plus que On a participé il y a quelques semaines en Bretagne à ce grand sommet sur l'océan qui m'a surtout beaucoup surpris parce que ça a été un sommet d'enchaînement de discours, y compris poétiques, il y en avait, sur fond d'océan. C'est-à-dire que la décoration était absolument magnifique et je sentais que j'étais troublé par ce bleu incroyable que le décorateur avait souhaité mettre. Alors c'est clair qu'à l'image, c'est beaucoup plus joli de voir les différents politiques défiler sur un océan très bleu. Et je me suis dit, au fond, il y a un contraste très grand entre l'intention qu'il y a de peut-être sensibiliser au sauvetage de la planète et de mettre un océan très bleu derrière. Sans doute aurait-il fallu montrer autre chose en matière de décor. Et j'ai forcément pensé aussi au sable discours.
Un verre de vin après avoir essayé de résumer le texte. Oui, moi j'ai essayé de le raconter. En fait, c'est très difficile de résumer ce texte-là parce que ça se compose avec beaucoup de choses. En fait, Landra un jour vient me voir et me dit ils avaient assisté à une représentation du traité de la boule de cristal, puis de la visite curieuse et secrète. Et Landra, donc, c'est l'agence d'État qui s'occupe de trouver des solutions pour ces fameux déchets nucléaires qui sont radioactifs, certains haute activité vie longue pendant plus de 300 000 ans. Et moi, je ne connaissais pas tout ça. Et ils avaient à l'époque un département de recherche, mais dans des scientifiques et des artistes, parce qu'il y a le problème de comment est-ce qu'on transmet la mémoire sur 300 000 ans. Depuis, on n'a toujours pas trouvé. C'est très compliqué. Vous imaginez 300 000 ans, ce que c'est comme durée. Et ils étaient venus en me disant, est-ce que ça vous dit, moi je ne connaissais pas Bure, est-ce que ça vous dit de venir visiter les souterrains de Bure, qui sont donc ces couloirs que l'on creuse à 500 mètres sous terre pour y entreposer dès 2029 80 000 mètres cubes de déchets nucléaires haute activité vie longue. Et puis on vous demande rien d'autre de nous dire ce que ça vous évoque. Alors moi, on me propose une aventure, j'y vais toujours, je suis très content, vous imaginez l'ascenseur, incroyable, on descend à 500 mètres sous terre, c'est incroyable, je vais dans des galeries, incroyable. Et puis effectivement, je ne sais pas trop quoi penser de ça, puis ce n'est pas très intéressant, ce que j'en pense, c'est qu'est-ce que ça m'évoque surtout, qu'est-ce que ça dit de moi et de ma société, je suis historien de formation. Et je sais que c'est par nos déchets, en fait, que nous reconstituons les civilisations passées, et il suffit de fouiller la poubelle de quelqu'un pour en apprendre beaucoup sur lui. Et je me dis, finalement, ces déchets nucléaires, c'est une poubelle de l'homme du XXe et XXIe siècle. Qu'est-ce que ça dit de nos sociétés? Qu'est-ce que ça dit de notre peur? Qu'est-ce que ça dit de notre façon de consommer? Qu'est-ce que ça dit de nos désirs? Qu'est-ce que ça dit de notre instinct de survie? Et je me dis ensuite, mais en plus, pourquoi le nucléaire est si ambivalent? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de pour et tellement de contre? Parce qu'on dit c'est sale, on dit c'est propre, mais sale et propre, ça veut dire quoi? C'est des notions, j'ai commencé à travailler sur ces notions-là. Et c'est devenu le sale discours, le déchet nucléaire est une partie de la pensée qui cherche à répondre à la question pourquoi si l'homme, dit-on, est de plus en plus propre, le monde, lui, est de plus en plus sale. Et c'est toujours comme ça, ces paradoxes extrêmement intéressants. Et finalement, cet environnement façonné par nos déchets, qu'est-ce que ça dit de nous? De nos instincts de survie, de nos désirs d'éternité, de notre façon de nous relier. C'est ça. Alors, c'est un texte qui commence avec un fait du Moyen-Âge. Vous savez qu'à Paris, il y avait des cochons qui se baladaient en liberté au Moyen-Âge. Et c'était les cochons roses n'existaient pas encore, c'était des cochons qui étaient noirs. Le cochon rose, c'est le produit d'un croisement génétique au XVIIIe siècle. Et ces cochons se baladaient en liberté dans Paris. Et puis un jour, en revenant de la chasse, le fils de Louis le Gros, le jeune Philippe, qui est très aimé par le peuple, se fait renverser par une meute de cochons. Enfin, son cheval se fait renverser par une meute de cochons. Du coup, le cheval et Philippe tombent à terre, le cheval est un petit peu désemparé et piétine le dauphin qui meurt dans des souffrances atroces, totalement déchiré par les sabots de sa monture. Et Louis VI va décider, à l'époque, au Moyen-Âge, les animaux sont considérés comme ayant une âme, donc une responsabilité juridique à des procès d'animaux, c'est très intéressant, ce genre. Et alors, il va punir les cochons, il va décider, au terme d'un procès, que les cochons devraient désormais se promener en laisse dans les tenue en laisse ou les chiens. Ça n'a pas trop marché. Mais néanmoins, on s'est aperçu que les premières lois de nettoyage des rues sont intervenues juste après et on en a déduit qu'effectivement, Paris, sans ses cochons, avait dû devenir une véritable porcherie. Et donc, en enlevant un élément qu'on jugeait sale, polluant, contagieux, c'est-à-dire qu'en enlevant de la saleté à un milieu, eh bien, au lieu de le rendre plus propre, on l'avait rendu encore plus sale. Et ça m'a beaucoup étonné. Quand j'ai réalisé ça, ça m'a émerveillé. Et donc, le sale discours, c'est vraiment un texte qui cherche à se questionner sur ce qui est propre, ce qui est sale, et pourquoi nous voulons toujours plus de propreté, et pourquoi c'est toujours la saleté qui nous rend, que l'on trouve.
Et justement, par rapport aux questions que ça suscite, quand tu présentes ce texte, que tu proposes ce texte, est-ce que ça se prolonge quelquefois avec ton public dans des conversations dont tu pourrais nous raconter peut-être certaines qui t'ont surpris?
Des conversations? Oh là là, il y en a tout le temps, les gens ils veulent tout le temps poser des questions.
Il n'y a pas une question régulière qui arrive?
Non, mais après, c'est... Non, c'est très... À chaque fois, c'est très divers, c'est... Ouais. Je suis content que ça floute un peu, la perception des gens et ça leur fait voir autre chose comme moi, en fait. Ça me plaît qu'à la fin, du coup, ils ont... De toute façon, au sortir des causeries, la plupart de la question qui revient tout le temps, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ce que vous racontez.
Et alors, c'est vrai?
Tout est vrai. Les interprétations me concernent, mais tous les faits que je raconte sont vrais. Tout est vrai. C'est pour ça que je veux qu'un comité scientifique vérifie tout. Ça a beaucoup plus de force de rendre merveilleux la réalité plutôt que de parler d'une fiction merveilleuse. Enfin, je trouve. Moi, ça me plaît davantage.
Et tu penses donc que l'addition de faits vrais constitue un récit véridique?
Si on y met suffisamment, si on partage les affects qu'on a à les recevoir et à les rêver, oui.
D'accord.
Oui, mais il faut passer l'expérience. C'est des histoires de sentiments, encore une fois.
C'est important d'avoir aussi ces lecteurs pour justement vérifier de l'émotion. Ça a été annoncé tout à l'heure, et je pense qu'il faut que je fasse cette jonction absolument importante entre notre manchot et puis une longue discussion qui a eu lieu. Et je tiens vraiment par ces mots à les remercier à tous ceux qui ont été les premiers contributeurs à l'aventure de l'INSEAD quand il a fallu penser cet Institut National Supérieur de l'Éducation Artistique et Culturelle, parce que c'est imposé, quand ça s'est imposé ici en Côte d'Armor, en Bretagne, c'est imposé aussi quelque chose de très très important. Et je suis en fait très ému à chaque fois que je regarde la salle et que je vois toutes ces personnes porter ce magnifique petit badge sur eux, avec cet oiseau qui est devenu notre mascotte, qui s'appelle, qui lui porte aussi un nom, Kit, et qui a été choisi par l'équipe pour signaler quelque chose, c'est-à-dire à la fois cet engagement sur l'éducation artistique et culturelle, mais aussi comme quelque chose d'important à sauvegarder, puisque c'est une espèce aussi qui peut être en voie de disparition, et montrer qu'évidemment, ça nous responsabilise par rapport à ça. Donc voilà, je pense que Kit a beaucoup à voir aussi avec Dominique, mais qui, lui, n'est pas dans une... Il n'y a pas de... Tu as dit une manchotière, je pense qu'il n'y a pas de macaretière. Ça n'existe pas. Il y a des îles pour les héberger. Il y a des îles, voilà, ce sont des espaces naturels. Qu'est-ce que tu penses de notre petit macareux? Donc tu as entendu, parce que je le dis aussi pour les gens qui ne sont pas habitués au macareux, on en voit rarement. Quand vous avez vu le film de ce midi, à la fin, on s'amuse beaucoup à mettre la transposition du logo de la métro Goldwyn-Mayer avec un lion qui fait rrrr. Eh bien, le cri du macareux, c'est bien celui que vous avez entendu, c'est le vrai cri du macareux. C'est...
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'un macareux, c'est le pendant parfait au manchot, parce que le macareux, c'est un pingouin. Pour le coup, il fait partie de la famille des pingouins, des vrais pingouins. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus proche de ce grand pingouin que vous voyez là, qui n'existe plus, que du manchot. Alors, c'est formidable, parce que c'est un peu la réunion ce soir du manchot et du pingouin.
D'accord. Et tu me regardes fixement dans les yeux.
Non, mais c'est la bonne méthode, en fait, de prendre des... Je veux pas dire des totales. Je pense que c'est la bonne méthode. Je suis personne pour dire une chose pareille. Mais quand même, quand on parle de l'environnement, commencez par le concret. Commencer par la matière, commencer par la forme de vie, commencer par le vivant, ça me semble être la seule voie possible. Donc c'est très bien. C'est beaucoup mieux. Enfin, c'est vraiment en rencontrant les êtres qu'on... C'est par la rencontre, en fait, que ça se fait. La vie se construit par les rencontres. Alors, on peut rencontrer des idées, je ne dis pas le contraire. Mais je trouve que c'est très important de symboliser, en fait, de symboliser les désirs qui nous animent.
Merci beaucoup.
Merci.
C'est un mot très important pour Pour terminer en tout cas cette causerie, je ne peux pas ne pas livrer une chose importante. Quand on est sociologue, on teste souvent nos interlocuteurs, ceux qu'on va interroger, en déclinant des choses, c'est la méthode aussi, on dit ce qu'on aime, et du coup on voit comment les gens réagissent. Et je disais hier combien, puisqu'on parlait, on évoquait des icônes, des idoles, et que je avoue que mon idole à moi, lorsque j'étais jeune, s'appelait France Gall, tu as immédiatement réagi par une phrase, tant de liberté pour si peu de bonheur. Et tu m'as dit ça, c'est une phrase profonde et philosophique, elle est profonde et philosophique, et elle tourne, on la connaît tous, tant de liberté pour si peu de bonheur. Et la chanson, c'est « Résiste ». Donc, résistons.